7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, c'est l'été chez 7 milliards de voisins. Dernier jour de cette série d'été dans une ville du monde, après Islamabad, Budapest, Rio de Janeiro, Accra. Eh bien, nous poussons les portes des entrailles urbaines jusqu'aux détails de la vie quotidienne des habitants. Aujourd'hui, vivre dans une ville douce amère, Tunis, en Tunisie. Bonjour Amira Souhelem.
Aslam, bonjour. Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards de voisins. Vous êtes journaliste, correspondante de RFI en Tunisie. Vous vivez à Tunis depuis 3 ans maintenant ?
Exactement.
Vous avez grandi en France. Pourquoi vous avez choisi ce titre de ville douce amère ?
Moi, quand vous m'avez demandé de trouver un titre à l'émission, c'est vraiment le qualificatif qui m'est venu en premier. Parce que véritablement, c'est ce qui me fascine, c'est ce qu'on voit au quotidien en Tunisie. Tunis, c'est vraiment une ville où il y a une grande poésie du quotidien, et souvent on a l'impression qu'il y a un certain sens du tragique qui vient se heurter. Tunis, en fait, en quelque sorte, c'est une ville où la beauté et la douleur se mêlent. Tunis, c'est une ville où le sublime et le sinistre, comme je vous disais, s'entremêlent, et je trouvais que cet adjectif dual, justement, rendait bien compte de ça, de cette intrication. Et je sais pas, pour vous donner un petit peu... Il y a une image qui a beaucoup fait le buzz en Tunisie ces derniers jours et qui pour moi vraiment résume ce qu'est la Tunisie et ce qu'est Tunis. Bon, alors malheureusement en Tunisie on a beaucoup de feux de forêt en ce moment, comme beaucoup de pays du pourtour méditerranéen, et donc sur cette photo on voyait une colline qui était en train de prendre feu, mais de façon très dangereuse et préoccupante, et en contrebas il y avait un petit café où les hommes sirotaient leur petit café tranquillement, comme si de rien n'était. Et la Tunisie, c'est ça. Tunis, c'est ça, c'est une ville où on prend le temps. Et moi, c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand je me suis installée en Tunisie, une des premières choses qui m'a beaucoup marquée, c'est quand j'appelais les gens pour mes reportages, pour caler un rendez-vous, une interview, il y a une phrase qui revenait souvent et qui maintenant me fait rire, c'est... Viens, on va prendre un café, puis on va en parler autour d'un café. C'est comme ça que ça se passe à Tunis.
C'est une ville de quoi, près d'un million d'habitants ?
Je ne saurais pas vous dire, le Grand Tunis, c'est quand même énorme. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais oui, c'est une ville qui grossit.
Très étendue.
De plus en plus, très étendue. D'ailleurs, moi, ça me fait rire, parce que souvent, quand j'ai des amis qui viennent me rendre visite à Tunis, ils me disent souvent, bon, ça, évidemment, on va le faire à pied. Et je leur dis, ah non, là, on a 30 minutes de voiture, c'est pas possible. Donc Tunis, en fait, c'est la grosse capitale d'un petit pays, si on peut résumer les choses comme ça.
Oui, je faisais la comparaison avec Islamabad, dont on a parlé ce lundi, qui s'étale toujours 1 million d'habitants à peu près sur 65 km², sauf que là, Tunis, c'est sur 200 km². Tunis, 11 ans après la révolution de Jasmin, qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Tunis qui vit une crise politique et économique à l'heure actuelle. Alors, peut-être on va commencer par la ville douce, si vous voulez bien, Amira Souhelem, avant d'aborder l'amertume. La ville douce, la douceur à Tunis, elle vient d'où finalement ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors pour moi, le premier critère, c'est forcément la lumière, et c'est ce que j'aime le plus à Tunis. C'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas faire écouter aux auditeurs.
Fermez les yeux, les voisins,
voilà,
les voisines.
Imaginez-vous à Tunis, la lumière de Tunis, c'est une lumière qui est très caressante, qui est très douce, qui est très enveloppante. J'ai presque envie de dire que c'est une lumière bienveillante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens. Et moi, vous savez, je fais partie des gens qui, le matin, aiment bien prendre le temps de se réveiller tranquillement, doucement, etc. Et depuis que je suis à Tunis, ça ne me gêne plus de me lever à 5h du matin et d'aller faire une petite marche à 5h30 ou à 6h sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd pour voir justement ces petites lumières de Tunis.
Vous êtes comme les photographes ou autrefois les peintres aussi, encore aujourd'hui.
Comme Paul Klee ou Kandinsky, qui eux aussi ont succombé au charme de la lumière de Tunis. Et pour résumer, je citerai peut-être une de mes amies, Nedra, que je salue au passage si elle nous écoute. Elle a eu cette phrase un jour qui pour moi résume bien la lumière de Tunis. Elle me disait, moi tu sais Amira, quand je me lève le matin et que je vois cette lumière de Tunis, je me dis que finalement la journée ne peut pas être si mauvaise que ça.
Oui.
Elle a tout dit.
Oui, c'est peut-être vite dit aussi. Amira, vous signez le programme musical de l'émission. Bienvenue à Tunis, les voisins et les voisines. La ville est chaude, raisonnablement chaude aujourd'hui, plus de 30 degrés bien sûr, ciel bleu, plein soleil, et on démarre avec la guitare douce amère et la voix de...
Alors de Sabri Mousbeh, qui est un chanteur tunisien qui met un point d'honneur à chanter dans le dialecte tunisien. Donc on écoute et puis je vous en parle après.
Mansit, j'adore cette chanson.
جدادي ويلي مالي مالي والزاد ما هو زادي والوقت وقت والبلاد بلادي والاصلي اصلي وعبد ما هي عبادي هي اصلي الخيالي والوهرة ميزاني عالي عالغدرة قصبة الاحباب والنبرة عمري ما نسيت اصلي البندير والمهرة القلب الكاس احكي الصخرة لحفة الاجداد والفخرة عمري ما نسيت ربا بابا بابا ربا بابا ربا 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 بابا بابا ربا 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 بابا بابا ربا بابا ربا ربا بابا 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 ربا بابا ربا بابا ربا أصلي الأشبال والجمرة عشقان الليل من الصغرة جمحي وزيتوني والتمرة عمري ما نسيت أصلي الغزلان والصحرة بسمة قليل في الغسرة ريحة الأيام والشمرة عمري ما نسيت أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت ربا بابا با ربا بابا ربا ربا بابا ربا 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 هي الأرض أرضي وترابي جدادي ويلي مالي مالي والزاد ما هو زادي والوقت وقت والبلاد بلادي والأصل أصلي وعبد ما هي عبادي والأصل أصلي وعبد ما هي عبادي والأصل أصلي وعبد ما هي عبادي أصلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت.
Amira Souhelem, nous sommes presque à Tunis avec vous dans la ville d'où sa mère, cette chanson Mensit qui signifie.
Alors Mensit, ça veut dire je n'oublie pas, je n'ai pas oublié. Et c'est une chanson dans laquelle Sabri Mosbah... C'est vraiment une déclaration d'amour à la Tunisie. Donc c'est une succession un peu de cartes postales dans lesquelles tous les sens sont activés. Alors la vue, les senteurs de Tunisie, le voile blanc des femmes, les figuiers, les oliviers, etc. Et je vous voyais réagir justement pendant que la musique était jouée parce que les paroles sont extrêmement belles, mais on sent bien toute la douleur et toute la mélancolie qu'il y a dans cette voix sublime de Sabri Mosbah. Et voilà, c'est une chanson évidemment d'où sa mère, comme Tunis.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, les voisins et les voisines. Nous sommes à Tunis, la ville d'où sa mère, racontée par Amira Souhelem, journaliste correspondante de RFI. Tunis est une ville d'où sa mère, mais où la mer est à portée de bus finalement.
Oui, exactement. C'est vrai qu'à Tunis, en plus d'une luminosité exceptionnelle, on a cette chance d'avoir la mer à portée de main, j'ai presque envie de dire à portée de train, parce que depuis le centre de Tunis, on a un train qui s'appelle le TGM, donc T pour Tunis, G pour la Goulette et M pour la Marsa.
Qui sont différents quartiers.
C'est les stations principales qui sont justement desservies par ce train-là. C'est un train qui fait partie du folklore tunisois, un petit train bleu et blanc qui a été inauguré en 1872 et qui en fait au début ralliait un peu, c'était le joujou du bey de Tunis qui lui permettait de rallier comme ça ses différents palais. Et aujourd'hui, c'est un train que les Tunisois utilisent beaucoup pour aller sur la côte. On y est à peu près en 30 minutes. Et c'est vrai qu'en une demi-heure, on se retrouve... Alors, On a des quartiers chics en bordure de mer, comme voilà, Sidi Bou Saïd, ce fameux village bleu et blanc tunisien qu'on connaît, qu'on
très
voit
touristique.
Très touristique. Carthage, la Marsa, mais aussi, il y a aussi des quartiers plus populaires, comme le Kram ou encore la Goulette. La Goulette qui est aussi un quartier mythique de Tunis, puisque c'est dans ce quartier-là qu'habitaient toutes les communautés qui ont cohabité à Tunis du temps du protectorat français. Donc je pense aux Maltais, je pense aux Juifs tunisiens, je pense aux Français, aux Espagnols, aux Italiens. D'ailleurs, il y a un petit coin de la Goulette qui s'appelle encore la Petite Sicile. Et des décennies plus tard, cet esprit, on sent encore cette âme du cosmopolitisme qui règne encore sur ce quartier de Tunis. Et c'est très agréable. Moi, ce que j'aime aussi dans le bord de mer tunisois et par extension tunisien, c'est qu'aujourd'hui, on en parlera après, mais malheureusement, les écarts se creusent énormément en Tunisie. Les inégalités sociales. Mais le bord de mer reste un lieu de cohabitation. C'est-à-dire que si vous allez à Sidi Bou Saïd ou à la Marsa ou même à la Goulette, vous allez voir un peu des personnes de milieux sociaux très, très différents. Et il y a aussi un brassage que j'appelle entre guillemets idéologique, c'est-à-dire qu'à sur les plages tunisoises et tunisiennes, et c'est quelque chose de tout à fait normal dans le pays, on voit vraiment cette coexistence, cohabitation entre des jeunes femmes qui vont être en bikini, des bikinis qui parfois n'ont rien à envier à ceux de Copacabana, et à côté vous allez avoir des femmes qui sont beaucoup plus couvertes, et parfois c'est au sein d'un même groupe.
C'est-à-dire en bikini, donc le fameux.
Exactement, des copines, des amies, des cousines qui voilà, n'ont pas du tout la même vision de la façon avec laquelle elles doivent s'habiller, mais qui vraiment, voilà, vivent et cohabitent de façon... C'est vrai, quand on arrive de France, c'est assez, quelque chose d'assez étonnant, mais qui fait la particularité, justement, de la Tunisie.
Alors, ceci dit, Tunis, ça n'est pas que la plage, hein, ouais. C'est aussi le chômage. Et là, on arrive, évidemment, doucement vers l'amertume.
Oui, l'amertume... qui est aussi... c'est vrai que la présence de cette mer-là, elle apporte beaucoup de douceur à Tunis, mais aussi beaucoup d'amertume, parce que la mer, c'est un rappel au quotidien de tous ces corps qui sont malheureusement engloutis en Méditerranée. En Tunisie, malheureusement, ça fait aujourd'hui partie du quotidien, quand on écoute, quand on regarde les informations, d'apprendre que voilà, il y a quelques dizaines de personnes qui ont disparu en Méditerranée. Aujourd'hui, en Tunisie, on a encore des familles qui ne savent pas ce que sont devenus leurs proches, partis pour un ailleurs que les Tunisiens imaginent forcément meilleur. En Tunisie, aujourd'hui, moi, parfois, j'ai l'impression que Tunis, c'est une vaste salle d'embarquement. C'est-à-dire que vous côtoyez des personnes qui sont sur le départ. Alors, il y a ceux qui ont les moyens de partir, c'est-à-dire qui utilisent leur diplôme qui font de leur diplôme des visas. Alors là, typiquement, les médecins, les ingénieurs qui sont très demandés en France et en Allemagne et qui, eux, partent en claquant des doigts vers l'étranger. Et puis, il y a tous ceux qui préparent un petit peu leur, ce qu'on appelle en Tunisie, harqa, leur départ clandestin vers l'Europe. Et même ceux qui n'ont pas les moyens de partir, on sent que de toute façon, mentalement, ils ne sont pas là. Et c'est vrai que la mer apporte un petit peu cet esprit-là. Et souvent, moi, en bord de mer, j'observe les gens. Et quand vous tendez l'oreille à Tunis, en bord de mer, souvent, vous entendez les gens parler de ça. D'ailleurs, j'ai un souvenir très, très marquant. C'était il y a quelques temps, j'avais une amie, une copine française qui était venue me rendre visite. Et on était en bord de mer. Et elle me dit, je ne comprends pas comment on peut quitter un pays aussi beau. Et au même moment, près de moi, il y avait trois hommes, à peu près à 5 mètres, qui discutaient de leur futur harqa, justement. De leur départ vers l'Europe, leur départ clandestin. Et ces deux conversations-là qui se sont entrechoquées à ce moment-là, j'ai trouvé que là-dedans, il y avait vraiment tout le drame de la Tunisie qui était résumé en quelque sorte. Un pays qui a un potentiel qui est là, mais qui malheureusement n'arrive plus aujourd'hui à retenir ses enfants.
Mais alors si tout le monde, et en particulier bien sûr la jeunesse qui vit le chômage de plein fouet, si tout le monde regarde vers l'ailleurs, si Tunis ressemble à cette salle d'embarquement comme vous le dites, comment subsiste le côté chaleureux de la ville? Comment la ville qui en même temps grossit très vite sur le plan de l'urbanisation, comment est-ce que l'urbanisation ne cède pas la place à un côté impersonnel avec chacun ses petits rêves dans son coin?
C'est vrai qu'on vit avec l'absence aujourd'hui en Tunisie, dans toutes les familles, donc il y a des personnes qui sont parties, et pour finir sur ce point-là, ce qui devient un peu préoccupant en Tunisie, c'est que pendant longtemps, ceux qui partaient, c'était des personnes qui avaient 20-30 ans. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes partir à 50-60 ans avec qui ferment, voilà, et puis parfois des personnes qui gagnent bien leur vie. Donc c'est vrai que quand vous commencez à avoir des personnes qui partent à l'âge de 50-60 ans, ça dit quelque chose d'une société, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les moyens de communication, voilà, le lien entre les familles perdure. Maintenant, comment subsiste malgré tout le lien? Bah, c'est que voilà, de toute façon, les Tunisiens, ils sont faits comme ça.
Les gens continuent à se parler au quotidien, oui, dans les rues, dans les quartiers.
Oui, parce qu'en Tunisie,
les gens se connaissent.
Les gens se connaissent parce que dans le centre-ville de Tunis, ou je sais pas, de quartiers comme la Goulette, la Marsa ou Sidi Bou Saïd, vous avez des familles qui sont dans ces maisons-là, dans ces quartiers-là depuis des générations. Donc les gens se connaissent. Mais c'est vrai que parallèlement à ça, en banlieue de Tunis, on a de plus en plus des quartiers qui sortent de nulle part, un peu comme ça, des espèces de grandes tours qui sortent de terre. Et même dans ces quartiers-là qui, visuellement, esthétiquement, ne sont pas spécialement très beaux, très rapidement, on a quelque chose qui se crée parce que le Tunisien est comme ça, il a besoin de connaître son boucher, il a besoin de connaître son voisin, il a besoin de connaître sa coiffeuse. Donc il y a un esprit de village qui, malgré tout, se crée.
Le prix des logements aujourd'hui, où est-ce qu'on en est à Tunis?
Bah, on en est,
vous nous le disiez, ouais. Les inégalités se sont creusées, les gens partent toujours plus loin. Oui. Ça, c'est un peu le lot commun de toutes les grandes villes, toutes les capitales du monde. Comment font les Tunisiens pour se loger?
Bah, en Tunisie,
à quel prix?
Il faut savoir qu'on a une inflation galopante. Le mois dernier, je crois qu'on
était à... On va bien sûr en parler
à...
du panier de la ménagère.
Oui.
Mais pour les prix du logement?
Le logement subit aussi cette inflation-là. Surtout que dans le bâtiment, beaucoup de matériaux viennent de l'étranger. Donc forcément, le prix des appartements explose aujourd'hui en Tunisie. Et c'est douloureux pour les Tunisiens parce que pendant longtemps, les Tunisiens ont été un peuple de propriétaires. Avoir sa maison, c'est quelque chose d'important, c'est même la base. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toute une génération qui ne peut pas se permettre ça. Donc symboliquement, c'est très difficile, puisque ce qui semblait être la base n'est plus aujourd'hui assuré. Donc
condamné à être locataire.
Condamné à être locataire ou à s'endetter sur des années de plus en plus longues. Surtout qu'en Tunisie, vu la situation économique, vous pouvez vous retrouver parfois avec des taux d'intérêt qui grimpent d'un mois à l'autre. Est-ce que ça rend la situation intenable pour
beaucoup? Un appartement familial aujourd'hui
Alors ça dépend beaucoup des quartiers. Ça dépend des quartiers dans lesquels vous êtes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a des conséquences importantes sur la façon avec laquelle les Tunisiens vivent. C'est-à-dire que certains jeunes vont rester de plus en plus longtemps chez leurs parents. D'autres vont même complètement renoncer à toute idée de mariage ou de vie à deux parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, de le faire.
Avec des salaires beaucoup trop bas, on est autour de...
Alors le SMIC en Tunisie est à peu près à 140-150 euros. Et vous avez beaucoup de personnes qui aujourd'hui en Tunisie ont des salaires qui sont situés entre 200 et 400 euros. D'ailleurs, le salaire par exemple d'un médecin débutant se situe aux alentours de 400 euros.
Comment payer un loyer de 100 ou 150 euros par exemple si c'est déjà le prix de son salaire?
Oui, tout à fait.
Vous signez le programme musical Amira. Vous avez choisi un classique du patrimoine musical tunisien mais qui a été un peu remis au goût du jour. C'est un label tunisien.
Exactement, c'est un label tunisien qui s'appelle Jazzit. Et alors, je vous raconte un petit peu peut-être comment j'ai découvert ce label-là, parce que ça dit quelque chose aussi de la Tunisie. Donc c'était il y a quelques semaines, j'étais en plein montage d'un reportage télé qui me prenait énormément d'énergie et de temps. Et j'ai vu qu'il y avait ce concert de jazz et je me suis dit, il faut que j'y aille, ça va m'aérer l'esprit. Donc j'y suis allée avec des amis et là, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces musiques. Je me suis dit, il faut à tout prix que je les utilise dans mon reportage. Donc j'ai contacté le jeune homme qui était à la tête de ce label et voilà. Deux jours après, il était dans ma salle de montage. Il voulait voir les images, il voulait voir comment on allait utiliser ces musiques. En regardant les images, il s'est rendu compte qu'il connaissait certaines des personnes avec qui on avait tourné. Et voilà, c'est ça. Ça résume très bien ce qu'est la Tunisie, oui, en fait.
La
ce contact humain qui est très, très important.
Et ce côté encore village, comme vous le disiez. Thank you. Vivre dans une ville douce à mer aujourd'hui, la vie quotidienne à Tunis, racontée par Amira Souilem. Ce slogan, Amira, dégage dans l'avenue Bourguiba, c'est tout le relent de désillusion de la ville douce à mer. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'avenue Bourguiba, qui était le lieu emblématique des protestations depuis la Révolution, est désormais interdit aux manifestations autres que culturelles.
Alors, on peut toujours manifester avenue Bourguiba, mais c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'au fil des mois, on a vu que les entrées étaient de plus en plus filtrées, surveillées par la police. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, on a eu beaucoup de manifestations à Tunis. Alors souvent, ça s'en devenait un petit peu drôle au bout d'un moment. Les anti-Qaïsides qui manifestaient. La semaine d'après, les partisans du président qui manifestaient. Parfois, ils manifestaient face à face. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, ils avaient la même playlist. mais oui, cette révolution-là, là aussi, elle dit quelque chose de cette...
De 2011, donc.
2011.
Et aujourd'hui, la grande désillusion, finalement, d'une démocratie avortée.
Oui, mais alors, pour comprendre la désillusion des Tunisiens, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut se souvenir qu'en fin 2010, début 2011, on est dans un pays qui a connu 23 ans de dictature et les Tunisiens étaient résignés. Ils étaient persuadés que Ben Ali était là pour toujours. D'ailleurs, on le surnommait Ben à vie. Et puis, fin 2010, il y a eu cette étincelle à Sidi Bouzid, ce vendeur ambulant qui s'est immolé. Et puis, petit à petit, des dizaines de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes, puis tout un peuple qui se lève, qui non seulement se lève, fait tomber le tyran, mais qui, en plus, inspire le reste du monde arabe. Enfin, Tunis, début 2011, il faut vraiment se rappeler que toutes les caméras du monde entier étaient braquées sur Tunis. Tunis était le centre du monde.
Mais alors, justement, comment cette ville tunisienne, qui a été tellement fière, d'être à l'initiative de plusieurs révolutions, même si les autres aussi ont avorté. Mais comment cette fierté tunisienne vit aujourd'hui le contexte actuel, la crise politique?
Ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant ces 11 années, après l'euphorie de la révolution, il y a forcément eu des balbutiements, il y a eu des impasses politiques, il y a eu des attentats politiques, il y a eu...
2015. Le musée du Bardo, notamment.
Exactement.
À Tunis.
Ouais, et puis aussi le meurtre d'opposants, de figures politiques de premier plan. Il y a eu la chute du tourisme, il y a récemment la pandémie qui s'est rajoutée, maintenant cette crise en Ukraine qui renchérit le prix des matières premières, puis Kais Saied, le président de la République, qui décide de reprendre les pleins pouvoirs. Donc il y a une accumulation, il y a eu une série de couches comme ça qui se sont rajoutées et qui ont entraîné une fatigue chez les Tunisiens. Surtout qu'aujourd'hui, les Tunisiens ont l'impression d'avoir perdu sur tous les plans. Mmh. C'est-à-dire que les slogans de la révolution, c'était on veut accéder à la dignité. Et les Tunisiens aujourd'hui ont l'impression non seulement d'avoir perdu en termes de pouvoir d'achat, de ne pas avoir recouvré leur dignité, et l'impression que finalement, cette démocratie ne s'est pas véritablement mise en place pendant toutes ces années-là.
Le référendum de juillet dernier, comment il a été vécu en particulier à Tunis?
Bon, alors, c'est un référendum
par les habitants,
qui a la particularité d'avoir eu lieu en plein été, saison des mariages, des festivals, etc. Donc, il n'a pas beaucoup mobilisé les Tunisiens. Et puis, il y avait une partie de l'opposition qui appelait en plus au boycott. Non, il y a eu une certaine lassitude. Moi, vous savez, jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à... J'arrive toujours pas à définir ce comportement des Tunisiens. Parfois, je me dis c'est de la résilience. Parfois, je me dis c'est du fatalisme. Parfois, je me dis c'est du je m'en foutisme. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les Tunisois et Tunisiens se laissent vivre, en fait, finalement, et attendent de voir ce que ça va donner. Alors qu'en 2010 et 2011, on avait l'impression qu'ils avaient envie de reprendre en main leur destin. D'ailleurs, je vais peut-être vous citer juste un extrait de l'hymne tunisien qui, à l'époque, était repris dans tout le monde arabe. « Idha ash-sha'bu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar », ce qui veut dire textuellement « si un jour le peuple exige la liberté, le destin se doit de lui répondre ». Et aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça.
Et d'ailleurs, vous avez justement consacré un reportage à cette grosse fatigue. Mmh. Mais ça, c'était bien avant que le président Saïd décide de s'arroger les pleins pouvoirs.
C'était semaines après. Parce que le Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. Il a, suspendu l'Assemblée. Puis moi, j'ai fait mon reportage dans les semaines qui ont suivi, je crois, en septembre-octobre. Donc la fatigue était déjà là.
La grosse fatigue ou la grosse déprime des Tunisiens?
Taxi. Assalam.
Bonjour.
Monsieur l'hôpital de Raz.
Je vais à l'hôpital psychiatrique de Razi.
L'hôpital psychiatrique, j'y emmène des gens tous les jours. Tous les jours, des personnes demandent à ce que je les y emmène. Les gens deviennent fous. Et là, je te parle de gens respectables, des gens de bonne famille, bien habillés et qui gagnent bien leur vie. Mais ils ne vont pas bien psychologiquement. Ils sont mal. Je ne parle même pas des plus pauvres. Eux, la machine les a écrasés depuis la révolution. Allez, ça fera 15 dinars, mademoiselle. Et bon courage pour ton reportage.
Ça, c'est le prix du taxi, mais le prix de la consultation d'un psychiatre aujourd'hui à Tunis.
Alors, le prix d'une consultation chez un psychiatre en Tunisie se situe aux alentours de 70-80 dinars, ce qui fait à peu près 20 euros. C'est hors de portée. Je vous rappelle que le SMIC est à peu près à 130-150 euros. J'ai commencé ce reportage-là, de la sorte. En fait, quand j'ai pris le taxi pour l'hôpital psychiatrique, je me suis dit, c'est pas possible, le taxiste va forcément trouver ma destination un peu étrange. Je sais pas comment il va réagir. Il va peut-être me dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ou alors peut-être qu'il va avoir une anecdote à me raconter. Donc, j'ai eu envie d'enregistrer sa réaction. Et elle m'a complètement, j'ai presque envie de dire, sidérée. Pour lui, aller à l'hôpital psychiatrique, c'était quelque chose de normal. Il a l'habitude qu'on l'arrête dans la rue pour lui demander de l'emmener là-bas. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, finalement, en quelques secondes, il résumait tout le drame de la Tunisie. Et donc, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée sur place, j'avais rendez-vous avec un médecin, mais j'ai eu envie de passer un peu de temps pour humer l'ambiance sur place. Et j'ai vu arriver des personnes dans un état très très avancée de la maladie, parce qu'aujourd'hui les Tunisiens, bon, malheureusement il n'y a pas de sensibilisation suffisante à la santé mentale en Tunisie, mais c'est ce qu'on disait, le prix de la consultation est complètement prohibitif, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des personnes qui arrivent vraiment en bout de course. Alors le patient qui est en bout de course, mais aussi sa famille souvent.
Et dans votre reportage, on entend le témoignage de psychiatres, oui, hein, qui essayent de mettre des mots sur le mal-être des Tunisiens. C'est le cas du docteur Anissa Bouasker, à qui vous avez posé cette question. Est-ce que les Tunisiens sont en dépression de groupe?
Dépression de groupe. Oui. Oui, c'est une société qui est malade. Oui, c'est toute une société qui est en souffrance. Il y a des structures de personnalité qui ne supportent pas l'instabilité. Donc ces personnes, elles peuvent être normales, équilibrées, mais à tout moment, elles peuvent basculer à l'occasion de grandes crises. Et on est dans un état de crise permanent. Permanent.
Vivre à Tunis, dans la ville d'Oussamer, racontée par la correspondante de RFI, Amira Souilem. Vous le disiez tout à l'heure, c'est ce millefeuille de malheur, finalement, qui s'abat sur les habitants à Tunis. Hein. La crise politique, la crise économique, la désillusion de cette démocratie avortée, de cette révolution qui n'a pas apporté ce que les gens rêvaient que ça puisse apporter. Et puis, aujourd'hui, cette préoccupation du quotidien, alors qu'il y a eu ce référendum dont les Tunisiens ne se sont pas tellement souciés, du président qui s'arroge les pleins pouvoirs, et ce sauf qui peut, cette nécessité de remplir le panier de la ménagère.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai qu'en Tunisie, en fait, finalement, la constante, c'est l'instabilité. C'est ce que dit le docteur Bouasker quand elle parle de crise permanente. C'est ça, c'est que les gens n'arrivent plus à se projeter. Alors, ils n'arrivent plus à se projeter à un mois, deux mois, six mois, un an. Mais aujourd'hui, les Tunisiens n'arrivent plus à se projeter. C'est vraiment une vie au jour le jour.
Mais aujourd'hui, l'inflation, elle vient d'où, finalement? Aujourd'hui, en Tunisie, il y a bien sûr la guerre en Ukraine. Oui. Il y a l'inflation qu'on connaît partout dans le monde. Mais il y a aussi des problèmes plus structurels, quand même.
Oui, il y a des problèmes économiques patents qui n'ont jamais été véritablement réglés, qui ne datent pas que de la Révolution, hein, qui datent de bien avant de ça, mais qui malheureusement se sont amplifiés en fait, à la faveur de toutes ces crises qui se sont accumulées en Tunisie. Et aujourd'hui, oui, en Tunisie, on a un taux d'inflation qui est aussi entre 6 et 8% tous les mois. C'est intenable pour le Tunisien moyen. Et encore, là, c'est une moyenne. C'est-à-dire que
les prix doublent tous les ans, quoi, en gros.
Par exemple, d'un mois à l'autre, vous pouvez avoir le prix des œufs qui augmente de 20%. C'est colossal quand vous avez une famille.
Est-ce qu'il y a aussi
charge,
des pénuries, toujours des, il y a eu un moment des queues, des files d'attente devant les boulangeries?
Tout à fait. On a eu des moments de pénurie où dans les supermarchés, vous aviez des listes des produits manquants ou des produits rationnés, donc les pâtes, le riz, la farine,
le fameux
beaucoup.
Blé ukrainien qui manque, bien sûr.
Exactement. Et là où ça pose problème, c'est au niveau du pain. puisqu'il faut évidemment de la farine pour faire du pain.
Et puis il y a la semoule. Les Tunisiens mangent énormément de blé en réalité.
Oui, c'est le socle de l'alimentation aussi parce que le pain est subventionné en Tunisie. C'est-à-dire que quand vous allez chez le boulanger, vous achetez à peu près votre pain à 200 millimes, ce qui fait à peu près 6 centimes d'euros. C'est pas du tout le prix, c'est pas du tout le prix de revient et normal du prix. Mais les boulangers sont ensuite, alors théoriquement, payé par la caisse de compensation tunisienne, ce qui permet aux Tunisiens d'accéder au pain de façon assez facile et en quantité.
Il faut rappeler les émeutes du pain en 1983, d'où les subventions sur les denrées alimentaires aujourd'hui.
Pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas cet épisode de l'histoire tunisienne, en 1983, la Tunisie est en tractation avec le FMI. Il a été question d'augmenter le prix du pain et très rapidement, il y a eu des émeutes qui se sont soldées par à peu près une centaine de morts. Et les choses sont rentrées dans l'ordre quand le président Bourguiba a décidé justement de revenir sur cette hausse du pain. Et aujourd'hui, c'est vraiment le scénario que les autorités redoutent parce qu'en Tunisie, on est à nouveau en tractation avec le FMI pour un nouveau prêt. Et parmi les mesures justement qui sont préconisées par le FMI, il y a justement cette réforme du système des subventions, notamment du pain. Donc sans jeu de mots, aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement tunisien, dans le dossier du pain, marche sur des œufs. Et on peut remarquer que quand les ministres, les officiels évoquent une éventuelle réforme de ce système des subventions. Souvent, ils prennent le soin de dire « Alors attention, on va toucher aux subventions, mais les personnes, les familles les plus précaires auront droit à des allocations pour essayer justement d'amortir ce choc-là. » On sent vraiment, effectivement, que le souvenir des émeutes de 83 n'est pas très loin. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut préciser que la Tunisie, aujourd'hui, est vraiment... On a des instances internationales qui sont très, très inquiètes et qui craignent que le pays ne connaisse un scénario un petit peu à la Sri Lankaise si les choses n'avancent pas de ce côté-là, si les tractations avec le FMI n'aboutissent pas.
Je pensais que vous alliez me parler de l'Argentine, parce que vous avez vécu en Argentine. Il y a ces Tunisiens qui ont tous besoin urgemment d'aller voir un psy, qui sont pour certains en cessation de paiement. Alors, ce n'est pas le même niveau de crise économique qu'en Argentine, mais est-ce que parfois, il y a des choses qui vous font penser à ce que vous avez vécu en Argentine ?
Moi, c'est vrai qu'à part Tunis, les villes, les capitales dans lesquelles j'ai vécu et passé le plus de temps, c'est Buenos Aires et puis le Caire. Et parfois, j'ai des flashs quand je suis dans la rue en Tunisie. Alors, à Tunis, vous voyez de plus en plus ce qu'on appelle les berbèches. Ce sont des personnes qui vivent de la collecte du plastique. On en voit de plus en plus dans les rues de Tunisie. Et moi, c'est vrai que quand j'habitais en Argentine dans les années 2000, on voyait énormément de ce qu'on appelle cartoneros, qui eux vivent de la collecte du carton.
Donc, y compris maintenant à Tunis, dans les quartiers précaires ?
Ah ben non, mais même dans les quartiers chics, vous voyez des berbèches au quotidien. Moi, j'en vois tous les jours. On voit de plus en plus de mendiants. À Tunis aussi, vous voyez de plus en plus fleurir sur les murs, et ça aussi, ça me rappelle Buenos Aires, des slogans anti-FMI. À Tunis, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de SDF. Ça n'existait pas avant.
Solidarité musulmane, en principe, familiale aussi.
La famille était là, servait un petit peu de coussin, d'amortisseur quand on tombait dans la précarité. Aujourd'hui, vous avez des maraudes de nuit auprès des SDF de Tunis qui sont assurés par Médecins du Monde. Ça dit quelque chose un petit peu de cette situation de plus en plus précaire que connaissent les Tunisiens.
Un quotidien donc difficile qui est évoqué aussi en musique, y compris par la plus grosse célébrité tunisienne.
Oui, Balti. Alors Balti fait partie de cette génération de musiciens qui, après la révolution, a décidé de mettre à profit cette liberté de ton, d'expression qu'on a eue soudain en Tunisie. Et donc il raconte dans ses chansons le quotidien, parfois morose, des Tunisiens. Et là, on va écouter Ya Hasra, puis on en parle juste après. مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غسرة فكرت أيامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غسرة ضحكت لأمي ما إيه ونسب القيمة إيه وعشرة قديمة إيه وقلت يا حسرة رضيت ولدينا إيه وينك يا حنينة تفرقنا مشينا وقلت يا حسرة محلانا ذريري ذريري الدنيا محلاها محلاها ماما وزينها ديما مواتيها محلاها الحومة ديما الحومة مظلومة قتلتنا الشيخة وزادت قتلتنا الحكومة فكرت لما قسمنا
عنا اللي فما وكل حد وهما وكنا محلانا واليوم زماما وبكات الماما خشومات في الشما شكون اللي بلانا فكرت أصحابي أصحابي حبوا على خرابي عطيتهم مترابي فرشو شوك فرش نظرابي عيب على روحي منعيبش على قرابي رقدت ونحلم وفكت نجري على سرابي وفي غيبوبة ايه وينك يا صحوبة ايه وطلعوا ذيوبة ايه وناس خوانا ريوسنا مقلوبة ايه وطلب بالتوبة ايه وايام محسوبة والوقت خذانا فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة ضحكت لامي ما ونسب القيمة وعشرة قديمة وقلت يا حسرة رضيت ولدينا وينك يا حنينة تفرقنا مشينا وقلت يا حسرة فكرت روحي لقيت روحي ضاعت مني راقد متحير وينو لي راقد متهني عجبتني الجارة اليوم الجارة عروسة تحني فكرت الليالي سهر كل فرزي تنغني وشربنا الروجة ضيعنا الموجة اختوينا عوجة ضحكة وبكينا بالخير ما يروشة وما حبوشة كلينا الحربوشة والحب كوانا فكرت شبابي ربحت وخسرت اتراحي روح للدار امي مالي تكمد لي جراحي فكرت احزاني محلى الدنيا في فرحي مسكينة بلادي الشايخ اكثر من اللي ساحي وصغار مدرينا وضحكوا علينا ما مشينا قرينا مشينا بهوانا شبينا ضحكتنا حزينة وكلي وينا نلقى ودوانا فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, la ville d'où sa mère, Tunis, racontée par la correspondante de RFI, Amira Souilem, et par cette star de la musique tunisienne, Balti.
Oui, Yahasra, ça veut dire « autant révolu », ça veut dire « c'était mieux avant », c'est une phrase qu'on entend au quotidien dans les conversations des Tunisiens. Et c'est doux amer parce que forcément, quand on dit Yahasra, ça a le surgissement de souvenirs heureux, mais en même temps, on les regrette. Et voilà, c'est une belle illustration de ce qu'est cette ville.
Mais alors, dans cette nostalgie, dans ces regrets, qu'est-ce qui permet finalement aux habitants de Tunis de continuer à vivre ?
L'humour, beaucoup. Moi, je dis toujours que si un jour un prix Nobel de l'humour est créé, il faudra à tout prix le décerner. On est aux Tunisiens.
Vous riez beaucoup.
On rit beaucoup à Tunis. Vous savez, en Tunisie, on a un proverbe qui dit « kothr al-ham idhahak », ce qui veut dire « l'accumulation de problèmes finit par faire rire ». Donc on rit beaucoup en Tunisie. Et vu la situation, je pense qu'on va continuer à rire très très longtemps. Les Tunisiens ont besoin de cet humour, en fait. C'est une soupape, c'est aussi
d'ailleurs,
une façon...
Vous avez consacré un reportage à l'humour en Tunisie pour RFI. Vous êtes allé à la rencontre d'un auteur tunisien à succès, Yamen Manaï.
Oui, Yamen Manaï, il fait partie justement de ces Tunisiens qui ont compris que l'humour permettait de rester debout. C'est un acte de résistance aujourd'hui, l'humour. Et la particularité de l'humour tunisien, c'est pareil, c'est qu'il est doux amer. On appelle ça le tenbir en Tunisie. Alors, c'est malicieux. Mais en même temps, avec une petite dose d'amertume, on tombe jamais vraiment dans le cynisme, mais on n'est pas loin. On est sur une crête bien tunisienne.
Et c'est un écrivain qui est typique de Tunis, même s'il est parti faire ses études d'ingénieur à Paris, ensuite il est devenu écrivain, et il met dans la bouche de l'un de ses personnages une blague à propos de la Tunisie, dont on dit tous qu'elle va dans le mur. Amira, est-ce que vous voulez bien nous lire ce passage ?
Oui, je vous lis l'extrait avec plaisir. Donc c'est tiré d'un roman qui s'appelle Bel Abîme et que je vous conseille de lire, il est très court et fantastique.
Le mur, le pays va dans le mur, c'est ce que tout le monde dit depuis des mois. Mais un soir, au Café des Sports, Tarak a fait ses calculs et a déclaré « À la vitesse à laquelle on y va, je ne m'inquiète pas pour le pays, je m'inquiète pour le mur. On va le défoncer, on va le niquer et on va passer de l'autre côté de l'espace et peut-être même de l'autre côté du temps. » Autour de lui, tout le monde a ri de ce rire qui est en fait une autre façon de pleurer.
C'est une parole qui a été saisie sur le vif. C'est une parole reportée et ce n'est pas moi qui ai inventé cette fabuleuse phrase « Je ne crains pas pour le pays, je crains pour le mur ». C'est une parole que j'ai récoltée dans un café entre des gens qui chômaient et qui s'interrogeaient sur l'avenir qu'ils avaient et qui s'interrogeaient sur l'état du pays. Nous avons beaucoup d'humour, c'est quelque chose qui nous caractérise et je pense que c'est c'est un dénominateur commun de beaucoup de peuples opprimés.
Yamen Manaï, qui s'exprime dans votre reportage Amira Souilem, jusqu'où est toléré cet humour, cette satire aussi sur le pouvoir politique à l'heure actuelle, un humour qui est considéré comme un symbole de liberté d'expression quand il ne reste plus grand-chose finalement.
Oui, en fait, ce que dit Yamen Manaï en substance finalement, c'est « je ris donc je suis, je ris donc je suis tunisien ». Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quand on va pouvoir rire en Tunisie c'est vrai que sur les radios publiques et la télévision tunisienne, on rit un peu de moins en moins depuis quelques semaines. Les radios privées continuent à avoir une certaine liberté de ton. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner dans les semaines, dans les jours à venir. Parce que, comme le disait Haitham El Makki, qui est le plus grand journaliste satirique de Tunisie, lui, il dit, voilà, attention, l'humour, la satire, c'est pas juste un symbole de la liberté d'expression, c'est le baromètre. Le jour où on ne pourra plus rire de ce pouvoir, ça voudra dire qu'on a perdu notre liberté de ton. Et ça voudra dire qu'une page de l'histoire de la Tunisie est véritablement en train de se tourner. Donc il faut vraiment, effectivement, surveiller un petit peu cette liberté de ton, le rire est le baromètre de la liberté d'expression. Je suis assez d'accord avec lui.
Parfois, ça vous fait penser au Liban ?
Beaucoup. La Tunisie me fait énormément penser au Liban des années 2010. Ce Liban qui connaissait plein de crises, mais qui, malgré tout, avait envie de vivre et qui était la capitale de la fête dans le monde arabe. Il y a parfois aussi des parallèles effectivement, qui se créent avec Beyrouth, même si, évidemment, la Tunisie est... heureusement, encore très très loin du scénario libanais.
Les dépressifs les plus joyeux.
Exactement, c'est ce que disent les Libanais. Ils disent « on est the happiest depressed people in the world ». Et il y a un petit peu de ça en Tunisie aussi.
Alors malgré l'inflation, néanmoins, on continue tout de même, bien sûr, de célébrer ce qui est le cœur de la vie en Tunisie et bien sûr à Tunis, c'est-à-dire les célébrations familiales, les naissances, les fiançailles, les mariages...
C'est même pas malgré tout. Moi, j'ai envie de dire qu'on fait encore plus la fête à Tunis maintenant. Parce que
malgré les restrictions dues à l'inflation, par exemple, parce que ménagère se plaint de ne plus pouvoir acheter des oignons,
oui,
des poivrons.
Oui, mais bon, finalement, pour danser, vous n'avez pas besoin non plus.
On se débrouille.
Voilà, on se débrouille. Et surtout, là, justement, c'est la saison des festivals à Tunis. Il y a par exemple ce festival de Carthage. C'est un des plus grands festivals du monde arabe et d'Afrique. Et moi, j'aime beaucoup y aller parce que souvent, au-delà de la scène... le spectacle, il est dans le public en Tunisie. Et en ce moment, je trouve que ce qui se passe dans les salles de concert tunisiens, ça va au-delà de la musique. On voit qu'il y a l'expression de cet élan vital de ce peuple tunisien qui, malgré les crises multiples, a envie de vivre, faire la fête à Tunis. Aujourd'hui, c'est aussi une façon de dire « nous sommes debout, nous aimons la vie, on veut continuer de vivre ». Et c'est aussi quelque chose qu'on ressent très fortement quand on va à un concert en Tunisie ou à une fête.
Amira Souilem, un jour peut-être vous quitterez Tunis. Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes loin de la ville, comme en ce moment, quand vous êtes à Paris pour l'été ?
Tout ce dont on a parlé, évidemment, la lumière, la mer, l'humour des Tunisiens.
Mais au-delà de ça, quand je suis à Paris, puisque je reviens très souvent à Paris où je continue d'avoir des activités professionnelles, je me suis rendu compte que ce qui me manque finalement, c'est de ne pas savoir exactement à quoi va ressembler ma journée. Parce qu'en Tunisie, vous avez beau planifier, programmer, faire toutes les partitions possibles et imaginables, la musique qui sera jouée sera toujours différente de celle que vous avez décidée. Alors pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, c'est-à-dire que vous allez faire des rencontres intéressantes, voilà, au coin de la rue. Et pour le pire aussi, c'est-à-dire que vous allez partir en reportage, votre chauffeur va décider de vous abandonner, il va falloir trouver un moyen de rentrer par vos propres moyens à Tunis. Voilà, il se passe toujours quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Et finalement, vivre à Tunis, c'est une école de la philosophie, en fait.
Et de la sagesse et de la résilience.
Et du rire et de la résilience.
Merci Amira Souilem de nous avoir partagé ces moments de vie à Tunis, la ville douce, amère. C'est la fin de cette série d'été. C'est passé trop vite, du lundi au vendredi. Vivre en ville, sachez bien sûr, les voisins et les voisines, que vous pouvez retrouver le programme musical déjà de chaque émission sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram 7 milliards RFI, sur Facebook, bien évidemment, sur la page de l'émission, sur le site RFI.fr. Et puis, bien sûr, réécouter toute cette série en podcast, également les années précédentes, toutes les autres villes de la série Vivre en ville. Amira, on vous dit au revoir, mais on se quitte quand même avec votre dernier choix musical.
On se quitte avec un très beau titre musical, c'est du Stambeli tunisien. Alors, nos auditeurs des pays d'Afrique de l'Ouest vont reconnaître les sonorités. C'est un genre musical qui est arrivé en Tunisie aux alentours des 17e, 19e siècles, emmené justement par les esclaves et les marchands originaires de cette région-là. Et c'est une musique qui s'est adaptée aux réalités tunisiennes. Donc on a des sonorités d'Afrique de l'Ouest, mais en même temps on célèbre des saints de l'islam, et je trouve que ça raconte bien ce que c'est aussi la Tunisie, un pays africain.
Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, oui. Une partie du territoire tunisien s'appelait, moi j'ai découvert, Ifriqiya,
qui a donné son nom au continent.
Réalisation David Brockway, à la préparation Juliette Brault, lundi 7 milliards de voisins. Pendant quelques jours, je vous propose de réécouter une sélection de nos meilleures émissions de l'année. N'hésitez pas bien sûr à commenter sur nos réseaux sociaux, sur WhatsApp. On est toujours très heureux de vous lire. À très bientôt, après quelques jours de repos pour l'équipe.